RMC. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous au 32-16. Bien sûr, c'est vous qui nous accompagnez, qui témoignez, qui réagissez, tout comme ce témoignage bouleversant. Et on s'est permis de le mettre, bien sûr, sur les réseaux sociaux d'Aurore, mais qui ressemble à tellement de personnes aujourd'hui en France qui ont du mal à joindre les deux bouts et qu'on remercie de sa sincérité, bien sûr. Mais vous êtes sincère tous les jours dans vos convictions avec nous, dans ce que vous dites, ce que vous partagez avec les grandes gueules entre 9h et midi. Mehdi Ghezzar, chef d'entreprise Kaouter Ben Mohamed, de la présidente de l'association Marseille en colère, et Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. J'ai vu passer, Didier, parce que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais juste cette question, pour savoir quel est le revenu, ton revenu d'agriculteur aujourd'hui?
C'est très variable d'une année sur l'autre, ça peut varier du simple au triple, mais en moyenne, c'est un bon SMIC, quoi.
Tu peux nous rappeler tes horaires?
Un temps de travail qui fait... sans exagérer, en moyenne sur l'année, 13 heures, entre 13 et 14 heures de travail, au moins 6 jours. Quoi.
Et tu commences? Bon, on en a parlé, donc moi je trouve ça admirable. Voilà,
4 heures. Pour aller aux grandes gueules, c'est 4 heures, mais normalement c'est 6 heures tous les matins. Ouais.
Et tu te fais
6 heures midi, 1h, 13h30, 19h, 19h30.
Voilà. Et combien de jours de congé par an?
8.
Voilà. Ouais. Non, mais c'est important de le dire. Cet homme nourrit la France.
Non, mais c'est aussi. Non. Enfin, c'est ce qu'on disait avec Mehdi, c'est aussi un métier passion. Mais t'as raison. Si aujourd'hui, enfin, les chiffres que je cite sur les éleveurs, sur le nombre d'agriculteurs, c'est d'abord parce que tu vis en décalage avec le reste de la société, quoi. C'est une vie qui est compliquée, quoi.
Mais tu vois, la question est très simple. Excuse-moi, Didier. Comment tu veux motiver des gamins?
Non, mais devenir agriculteur.
Aujourd'hui, les enfants d'agriculteurs ne suffisent plus.
Voilà, quand ils écoutent qu'un type comme toi qui a 30 ans d'expérience dans l'agriculture, qui a... Tu as tes terres, tu es propriétaire de tes terres, je pense, j'en suis sûr, que tu touches un SMIC ou un SMIC plus pour 14 heures par jour de boulot, pour 8 jours de vacances par an. Comment tu veux qu'un gamin qui sorte de l'école te dise « j'ai envie d'être agriculteur ».
Mais il n'est pas propriétaire,
la vocation,
en plus.
La passion,
mais propriétaire en plus de tes terres. Hein.
Pas tout, non.
Voilà.
Pas tout aussi, mais une partie. C'est un autre...
Non, c'est aussi... Tu vois, ça, c'est aussi... une façon d'appréhender l'exploitation. Il peut y avoir de la capitalisation aussi. Parce qu'il y a quand même plein d'agriculteurs qui capitalisent
par rapport à leur terre.
Qui ont le même salaire que moi, mais qui capitalisent.
Le dernier mot, c'est qu'il y a un décalage. Tu vois, quand on voit que cet homme qui nourrit la France gagne 1200 balles par mois, et après, tu as des Instagrammeuses qui vendent l'eau de leur bien, qui gagnent, je sais pas combien, 100 000 euros par mois. Il y a un problème aussi, tu vois, dans ce monde. On rémunère les gens pour des choses qu'ils ne méritent pas. Donc, tu vois, il faut tout remettre à plat, là, vraiment.
Bon, on en reparlera tout à l'heure avec Louis Boyard, le député NUPES du Val-de-Marne, notre ancienne GG. Il sera avec nous, justement, sur la rentrée vie chère qui s'annonce, le droit de vote des étrangers, le débat sur l'immigration, Hassan Iqhoussen Limam, y a-t-il un acharnement de la part de Gérald Darmanin, la sécurité, les rodeaux urbains, des questions qu'on posera tout à l'heure à Louis Boyard, député NUPES du Val-de-Marne. En attendant, on y va pour notre GG7 et match.
RMC.
GG7 et match.
Ouais, le GG7 et match va nous amener à reparler un petit peu des vacances, mais surtout sur ces casse-têtes, cette... aujourd'hui, surfréquentation qu'il peut y avoir de certains lieux touristiques. On a par exemple des randonneurs et des promeneurs qui prennent d'assaut aujourd'hui des zones de montagne qui se retrouvent complètement bondées. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs l'affluence XXL, avec le problème des déchets, les ravinements. C'est la perturbation aussi des écosystèmes. Ça pose des problèmes de stationnement, de circulation, de sécurité. Et donc, face à cette surfréquentation, aujourd'hui pour les parcs naturels, les réserves, certaines communes ont décidé de s'organiser. Et la loi climat leur permet de mettre en place soit des quotas au nom de la protection de l'environnement, soit même aujourd'hui ce qu'on appelle des espaces payants, c'est-à-dire des parkings, un accès où tu payes. Et donc forcément, à partir du moment où tu payes, l'accès est restreint. C'est ce qui s'est passé par exemple dans les Hautes-Pyrénées, où pour accéder... Comment ?
Le cirque de Gavarnie.
Voilà, où pour accéder maintenant, tu payes et du coup, tu limites la fréquentation. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui des quotas et du paiement ? Je citais les Hautes-Pyrénées, c'est Aragnouette où les érodateurs permettent d'accéder aux lieux touristiques et aux lacs depuis maintenant 2019 afin de préserver la nature. GG7 et Match, non dit Scouter et Midi. Oui, dit Didier Giraud. Il est seul contre tous. Aujourd'hui, Didier Giraud, c'est toi qui as droit à la minute. C'est parti.
Bah, pourquoi il faut faire payer certains sites naturel, alors que, y compris moi, c'est une forme de tourisme très populaire, c'est l'essence même de la France. N'empêche que certains sites, à force d'être surpeuplés, d'être surexploités, sont en danger, quoi. Enfin, l'exemple qui me vient le plus naturellement, c'est le Mont Blanc, quoi. Aujourd'hui, ça fait la queue-leu-leu pour monter sur le Mont Blanc, comme ça fait la queue-leu-leu pour aller chercher sa baguette de pain le dimanche matin. Et derrière ça, il y a un coût. Alors, en dehors, parce que, pourquoi il faut faire payer? Parce que les gens ne sont pas responsables. C'est d'abord les gens qui ne sont pas responsables. T'as des gens qui attaquent l'ascension du Mont Blanc en claquettes, avec des enfants de 5 ans. Donc derrière ça, t'as un coup de sécurisation, il y a des gens qu'il faut aller sauver, et puis t'as un coup des ordures, quoi. Enfin, moi, je marche en montagne, je suis désolé, mon sac d'ordures, il va dans mon sac et il redescend. N'empêche que personne ne fait ça, quoi. Et t'as certains sites naturels aujourd'hui qui sont tellement surexploités que pour les municipalités, le coût, ne serait-ce que traitement des déchets, est insupportable, quoi. Voilà, donc c'est à cause de la connerie des gens que certains sites doivent être protégés, et la façon de les protéger, c'est de faire payer.
La connerie de certains touristes, excusez-moi, moi qui suis dans une zone quand même où les sites naturels, ce ne sont pas des monuments touristiques, ce sont des sites naturels. Certains sont protégés, certains ne le sont pas, et c'est une éducation. Et dans le Sud, on a accès à cette nature, parce que c'est la nature, de manière, libre, hein, et c'est tant mieux. Et j'ai toujours dit que c'est tant mieux pour les pauvres, pour les précaires, pour les jeunes, qui au lieu d'aller dépenser de l'argent pour s'occuper, peuvent aller gravir les calanques, gravir une montagne, se baigner dans un lac, celui de Pérol, celui de Sainte-Croix, celui des Gorges du Verdon. Alors oui, il y a certains cons, il y en a partout, ça je te l'accorde, il n'y a aucun problème, mais faire payer l'accès à la nature, c'est pour moi d'une d'absurdité sans nom et un scandale sans nom. Les gens comme Aurore, les gens comme moi, qui n'avons pas les moyens de payer, on va aller quoi? Tu vas fabriquer du tourisme de riches, en fait. Il n'y a que ceux qui ont les moyens de vouloir
payer aujourd'hui.
Oui, non, mais ceux qui... aujourd'hui, non, quand tu vas au Calanque, tu payes pas.
Aujourd'hui, tu payes de façon indirecte, mais tu payes.
Je termine, je ne t'ai pas coupé pendant ta minute, s'il te plaît. Sauf que tu peux réguler ce trafic. À Marseille, ils l'ont fait cet été par rapport au risque d'incendie, par rapport à la surfréquentation.
Ils ont mis des quotas.
Ils ont mis des quotas. Tu t'inscris. Non, mais tu ne payes pas. Ça reste gratuit. Tu t'inscris. Ça embête les gens comme moi qui y allaient de manière naturelle, parce que c'est en bas de chez nous qu'on a l'habitude d'y aller. Aujourd'hui, on va au Calanque, on va au Frioul. Aujourd'hui, il faut t'inscrire. Donc ça embête ceux qui utilisent ces sites de manière naturelle parce qu'ils sont à proximité, que c'est notre environnement direct, il n'y a pas de problème. On a marronné, mais on a compris qu'il fallait protéger ces sites. Par contre, les rendre payants, c'est absolument scandaleux, et en particulier dans la conjoncture actuelle. Donc que les maires et que les collectivités travaillent, qu'elles mettent des quotas, qu'elles renforcent les équipes de l'ONF, qu'elles renforcent
des équipes, des agents,
limiter l'accès, mais pas le faire payer. Moi, je suis pour pas pour limiter l'accès, pour réguler.
Il y a un coût derrière la collectivité. Donc, soit tu mets des amendes, soit tu fais payer en amende.
Mais mets des amendes. Mais
moi, je suis pareil.
Aujourd'hui, les communes.
Quand les gens vont dans les calanques, excuse-moi, promener ou en montagne, celui qu'un agent de l'ONF prend à jeter un déchet par terre, qu'ils lui mettent 1500 euros d'amende. Moi, je suis pour une amende forte qui te dissuade, et pas 35 euros qu'on s'en fout. D'accord? Donc, que tu mettes des amendes à des gens pris sur le fait, en flagrant délit, ok, mais que les vous appelez des sites touristiques qui sont juste la nature, restent accessibles à tous, et en particulier aux vulnérables, à qui il ne reste que ça pour passer un bon moment. Parce qu'ils n'ont les moyens ni du Plaza, ni d'ailleurs.
Non mais je trie, Kaouter. Moi, je trie dans ce qu'on appelle les sites touristiques. Enfin, la forêt à côté de chez moi, on s'en fout, quoi. On s'en fout, il n'y a personne. Mais tu as certains sites aujourd'hui dits naturels, dits touristiques, qui sont tellement surexploités qu'il y a un coût pour la collectivité. Et la commune des Hautes-Pyrénées, comment tu l'appelles,
Aragnouette.
Ça ramène de l'argent.
La commune d'Aragnouette, c'est le point de départ pour aller voir le cirque de Gavarnie. Ouais. La commune d'Aragnouette, c'est une petite commune. Je sais pas combien, il y a 300-400 habitants. Et ces gens avaient des milliers d'euros de retraitement des déchets des touristes. Et c'est les administrés qui payaient
ces
ça.
Ces touristes n'auraient pas du fric?
Mais non, mais
ils consomment pas.
Non, mais
ça génère pas d'argent.
À un moment donné, c'est quand même pas normal que, y compris les pauvres de ces communes-là, qui sont parfois des communes dépeuplées,
étaient partis de l'autre côté,
soient obligés de supporter le coût de l'attrait touristique du truc.
Ces activités touristiques génèrent du fric.
Quand tu vas au Beau de Provence, tu peux pas te garer n'importe où. Tu payes un parking payant. Voilà, parce que le parking payant des Baux de Provence, il permet de faire en sorte que la ville soit belle.
Justement, tu peux installer un parking et des horodateurs avant, ce qui fait que tu limites ton temps. Si tu veux l'argent ou ce que tu vas payer pour venir, finalement, tu vas dire 15 balles. Bon ben finalement j'y vais pas quoi. Si tu veux. Alors c'est un filtre qui est terrible, mais c'est un filtre qui permet de baisser cette fréquentation.
Ça permet aussi de payer un coût induit derrière.
Oui, et ça donne accès que à ceux qui ont les moyens et pas aux smicards et pas aux gens qui sont auxiliaires de vie, pas aux agents de sécurité, pas aux chauffeurs de bus, pas à tous ces gens qui n'avaient que ça pour découvrir. Excuse-moi, Mehdi, je te laisse après. Des jolis sites et passer un moment tranquille dans la nature. Je suis désolée. Payer l'accès à la nature, c'est le dernier degré pour moi, où tu vomis en fait, où tu crées une société pour les riches et une société pour les moins riches.
Non mais ça c'est ta façon d'instrumentaliser la chose. N'empêche que si tu vas marcher, demain matin, Cahoutère, tu vas voir que tu as une file ininterrompue de marcheurs. J'étais le week-end de l'Ascension au bord du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les mecs qui marchent, une file ininterrompue à la queue leu-leu, comme ils vont prendre le métro. Ils ne respectent rien, ils ne ferment pas les barrières et l'activité agricole les emmerde en plus. Mais n'empêche que t'es obligé d'y faire quelque chose. Tu peux pas laisser faire l'expansionnisme touristique comme ça.
C'est pas parce qu'ils vont payer qu'ils vont pas jeter par terre.
Payer n'est peut-être pas la seule solution.
C'est ça ?
Non mais instrumentaliser le fait que c'est une barrière aux pauvres, c'est faux.
Mais c'est la vérité.
C'est faux.
Mais c'est la vérité.
Non, c'est faux.
Mais c'est la vérité.
C'est faux parce que c'est pas tous les sites naturels de France qui vont être comme ça.
Je dis pas le pauvre, je dis que les personnes qui sont précaires, qui ont des salaires précaires, n'auront plus accès à ces activités en pleine nature parce qu'il y aura un coût. Quand les gens n'arrivent pas à payer des pâtes, tu crois qu'ils vont les payer 15 euros l'accès à un site ?
Écoute, moi si je peux pas bouffer au Ritz, je vais bouffer au resto d'à côté, quoi. Et à un moment donné...
Mais là, on parle de la nature.
Eh ben, c'est la même chose.
Ben non, c'est pas la même chose. Je suis désolée. La nature, elle est à tout le monde. Elle n'est pas pour riche.
Si tu peux pas te payer la montée au Mont Blanc ou l'accès au Mont Saint-Michel, eh ben, tu vas voir l'église de Chartres et puis tu montes sur...
Eh ben non. L'accès au Mont Blanc, c'est pas pour ceux qui ont les moyens. Je suis désolée.
Ben moi, je pense.
C'est la double peine. Tu arrives pas à bouffer toute l'année, tu arrives pas à te chauffer, tu arrives pas à courir. Et en plus, il faut que tu ailles
pas
balader.
C'est une façon de l'instrumentaliser, comme tu le présentes.
La personne qui, malheureusement, a du mal ou au 10 du mois, il y a des chances pour qu'elle ait du mal. Elle est du mal à partir en vacances derrière. Elle va sûrement faire les vacances autour de chez elle.
Mais il y a des gens qui habitent autour de ces sites-là.
Alors, Mehdi Ghezzar.
Ça pose un problème pour les riverains, t'as raison.
Mehdi.
Vous avez remarqué que je suis calme en ce moment.
Ouais. Vas-y, énerve-toi.
Non, j'ai pas envie de m'énerver justement. Ouais, c'est la chaleur. Vous avez remarqué que ce débat résulte de la loi.
Environnement-climat, oui.
Environnement et climat. Et comme par hasard, qui est-ce qui paye la loi climat et environnement, qui est le premier qui est touché par ça? C'est qui? C'est celui qui n'a pas de pognon.
Non mais...
Ben il faut se poser peut-être les bonnes questions, Didier. Je suis désolé de le dire, mais à un moment, on parle pas des gens qui prennent des jets, on parle pas des gens qui prennent des bateaux de croisière.
Cela dit,
on
parle pas de
la loi ouvre la porte.
Elle permet de le faire.
Elle permet la. Oui, donc elle a ouvert la porte à ce que. Comprends ce que je suis en train de dire. Tu vois, je vais pas te le faire de façon.
Les riches, les pauvres. Voilà, oui, j'ai compris.
Je vais te le faire du fait que il y a encore une loi qui a été faite en le 22 août 2021, donc il y a un an, qui permet. Donc c'est permis par la loi que les parkings soient payant sur les lieux dits touristiques publics,
oui,
pour avoir moins de personnes, pour avoir moins de pollution. Excuse-moi, mais je suis désolé. C'est pas moi que tu vas... Moi, cette loi, elle va pas me déranger, moi. Non, mais je vais être très sincère.
Ouais, regarde, temps, c'est toi qui payes quand même.
Didier,
c'est y compris les pauvres qui vivent dans cette ville.
Laisse-moi finir. Les pauvres qui vivent dans cette ville, quand t'es pauvre, généralement, tu payes pas d'impôts. Ouais. Donc c'est un contre-exemple ce que tu dis, d'accord ? Je le dis, mais c'est, t'as vu le gars qui est en vacances, qui a envie de taper un week-end avec sa femme et son gosse, ou avec sa fille, ou avec son fils, ou qui a économisé, ou qui a eu des chèques vacances par son CE, ou peu importe le truc, et qui a envie de se taper un délire au Mont-Saint-Michel avec ses gamins, il a envie de se faire plaisir. Il a pas les moyens d'aller à Cannes, il a pas les moyens d'aller à Saint-Tropez, il a pas les moyens d'aller en camping. Il a envie de se taper juste un petit week-end. Ben, tu sais, quand tu lui enlèves 20, 25, 30, 35 euros.
Le parking, quoi.
Ben, ça lui enlève. Excuse-moi. Ça lui enlève.
Ça
lui enlève.
Ça existe déjà, ça.
Non.
Ça... Le Cap Cisin, tout au bout du Finistère, c'est un site privatisé. Tu paies pour
Didier,
mais c'est bondé de monde.
Par contre,
c'est propre.
Didier, excuse-moi. C'est autorisé par la loi depuis l'année dernière.
Oui.
Donc, à un moment, moi, ce que je trouve et je l'ai dit ici plusieurs fois, Alain est témoin, Kauter est témoin, même toi que tu es témoin, que quand on fait de l'écologie uniquement punitive, oui, de surcroît contre les classes, et c'est, ah, et je te le dis, c'est pas moi que ça va déranger.
Les classes
modestes, du bois,
c'est qu'on s'est trompé.
15 euros, 50 euros de parking, moi, c'est, ça a pas, voilà, ça va pas m'impacter. Mmh. Mais quand tu enlèves 20 ou 30 balles de parking à des gens qui sont en train d'économiser pour aller faire cette journée de, oui, d'excursion, d'accord, et ben après, ils vont les enlever, ouais, du kebab qu'ils vont bouffer à midi, ou de la pizza qu'ils vont,
ben ouais,
ou de la glace qu'ils vont payer à leurs gamins.
Alors,
ça, c'est
on va
clair.
Regarder la consultation.
Donc, c'est fait des, donc, c'est dégueulasse.
C'est alors, une vie faite d'arbitrage.
Donc, c'est préserver la nature.
Quand t'es pauvre, c'est ça, la vie.
Oui, mais la nature, alors, regardez, tout le monde.
Pour le moment, c'est Kauter et Midi. C'est la team non qui l'emporte à 57%, 57%. 7,43. Dans un instant, Sacha de Haute-Garonne, Jean-Claude aussi du Maine-et-Loire. On va voir ce qu'ils en pensent. A tout de suite avec les GG.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal.
Olivier Truchot.
Les grandes gueules, les GG, les grandes gueules, les GG, les grandes. Je ne sais pas si j'étais revenu, j'avais un problème avec mon oreillette. Donc, tu sais, le type, il bégaye. Il est en boucle, je suis là. Oui, t'es là, Marchal, bouge pas. T'es là. Mehdi Guézard, Kauter Ben Mohamed, Didier Giraud. On est en pleine discussion là avec les grandes gueules sur les sites touristiques, les sites d'espace naturel touristique, savoir si on doit instaurer des quotas, si on doit même mettre des barrières payantes, pourquoi pas, des parkings d'accès, vous payez pour accéder à ces sites, simplement pour les préserver. Et c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce que permet la nouvelle loi qui est sortie, qui a été mise en place, la loi climat et résilience. Sacha veut en parler avec nous. Bonjour Sacha.
Bonjour les GG.
Oui.
Bonjour.
Ou non alors, Sacha de Haute-Garonne?
Ah ben bien sûr que non, moi je suis complètement 100% d'accord avec Kauter et Mehdi.
Ouais. Bravo,
Didier, je vous apprécie, mais malheureusement il va falloir revenir parmi nous, un peu atterrir, parce que ce n'est pas possible, hein. À un moment donné, ce n'est pas possible. Moi je suis de Toulouse, j'ai une maison dans les Pyrénées, j'y suis actuellement, j'ai jamais vu autant de monde dans les Pyrénées, ça fait vivre les commerces. Il y a des gens très modestes, avec des petits revenus, je dis ça, je suis chef d'entreprise, mais je sais d'où je viens.
Ouais.
Les gens profitent de la nature, c'est le lieu à tout le monde, donc ça commence à faire payer les gens. Entre le gasoil, le péage, et que maintenant ils viennent dans les Pyrénées pour être dans la nature, bah, c'est plus possible. La mer, ça devient compliqué. Ça devient
Sacha,
trop cher.
C'est pas partout. Donc, tout le temps, quoi.
Mais c'est pas partout tout le temps. Mais attendez, chez nous ici là, dans le sud-ouest là, ça fait très longtemps que j'ai pas vu autant de monde. Ça fait vivre beaucoup
mais
de monde.
Justement,
je suis d'accord avec vous.
C'est justement là qu'est le problème, Sacha.
Mais non, parce qu'il y a quoi ? Il y a 20% de cons. Je suis désolé du terme. Non. Qui dégueulasse. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une question d'éducation. Mais si on commence à dire aux gens, venez chez nous, mais payez, ils viendront plus.
Non, mais il y a des solutions, Sacha. Je suis pas d'accord avec vous de le dire comme ça. Il y a quelques sites en France. Alors peut-être que c'est que quelques, c'est pas tous les sites qu'il faut identifier comme des sites où la surexploitation du tourisme, c'est risqué. C'est risqué et ça a un coût induit que la petite collectivité ne peut pas supporter, quoi. Je suis désolé, Sacha, mais vous allez pas dans les grottes quand vous allez visiter les grottes de Lascaux, vous rentrez pas dans la grotte de Lascaux. Ce n'est pas la grotte de Lascaux. Parce que si dans la grotte de Lascaux, il y avait une file ininterrompue de personnes qui allaient voir, ça n'existerait plus, la grotte de Lascaux.
Il y a des choses autour de la grotte de Lascaux. Il y a
mais
des
voilà.
De sa vie, c'est des villages, ça fait.
Ça ah, mais ça, je ne le conteste pas. Je sais bien que la campagne et les sites naturels, ils ont besoin de ça.
Allez-y, Sacha.
C'est un littoral où ça devient très cher. Aujourd'hui, ça fait du bien.
C'est pas ce que je dis, Sacha.
Aujourd'hui, moi, je vais vous donner mon exemple. Je parle en connaissance de cause. Je vois dans le sud-ouest, il y a jamais autant de monde dans les Pyrénées. Ça fait du bien.
Non, mais ça, on est d'accord. Sauf qu'il y a quelques endroits dans les Pyrénées où c'est dangereux pour la préservation de la nature. Et il y a quelques endroits dans les Pyrénées où il y a tellement de monde. Et ben, il y a tellement de monde que c'est plus que c'était. Et ça a un coût.
Alors tu fermes le site pour une période donnée.
C'est ce que j'ai dit.
Tu fermes le site pendant 3 ans, le temps que la nature reprenne ses droits, etc. Mais
c'est pas ça
ceux
qu'il faut
qui ont
faire.
Les moyens financiers y accèdent et le reste de la population les regarde.
Il faut penser à tout le monde. Et ça, c'est
la même règle pour tous.
Mais écoute, ce qu'ils ont fait dans les Calanques, ça va dans le sens de ce que je dis.
C'est pas payant.
Alors Sacha,
ça va dans ce sens-là.
Sacha, on va écouter une autre opinion, celle de Jean-Claude qui est avec nous. Bonjour Jean-Claude.
Allô,
Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Claude. Vous nous appelez du Maine-et-Loire. Alors,
absolument.
Est-ce que oui, on met des quotas ou on fait payer ?
Je suis 100% du côté de Didier.
Pourquoi ?
Voilà, parce que je l'aime. Bon, je l'apprécie beaucoup et il a raison.
Pas une raison.
Je suis une commune Saumur. Nous avons un peu plus de 20 000 habitants. Nous avons des beaux châteaux, c'est le bord de Loire, oui. OK. et les gens ne respectent rien. Respectent rien, et il a tout à fait raison.
Donc,
tout à fait scandaleux. Vous avez des détritus partout et tout. Les gens ne respectent rien, s'en foutent. C'est la commune qui paye, c'est nous, nos impôts et tout. Donc, il a raison de dire, même si c'est une perception de 2 euros, 2,50 euros, c'est pas méchant, ça va pas tuer le monde. Les enfants, en plus, quand ils visitent des centres, ils ne payent pas.
Parce que je j'ai pas les chiffres, hein, mais je présume qu'une commune comme Saumur, avec l'afflux de touristes qu'il y a, vous avez un budget de recyclage et d'ordures qui correspond à une commune de 40 000 habitants.
Absolument, absolument.
Mais monsieur, absolument. Ça ramène de l'argent aussi, ces touristes, ça génère une économie locale.
Non, parce que derrière, on paye. On paye.
Vous payez, mais les gens, ils mangent, ils boivent des coups, ils consomment des souvenirs. Je suis désolée. J'habite dans une zone qui est hyper touristique. On n'en peut plus depuis le Covid des touristes, nous aussi, à Marseille. Donc, je vous comprends, je partage.
Allez-y, Jean-Claude.
Moi, je ne vous apprécie pas. Je ne vous aime pas, je vous le dis très, très clairement.
Aucun problème.
Regardez le reportage qui est passé sur Marseille. Regardez un petit peu ce qui se passe sur Marseille.
J'ai pas besoin de regarder le reportage. J'y vis, monsieur.
Ville la plus sale de France.
Oui. Okay. Et on paye les taxes les plus chères de France.
Oui. Et vous avez du respect par rapport au site.
Mais bien sûr qu'on a du respect. C'est pas mon problème, monsieur. C'est les touristes. C'est les gens comme vous qui viennent d'ailleurs.
Sur les calanques et tout. Rien n'est respecté.
Mais les Marseillais les respectent. C'est les touristes qui les respectent pas, monsieur. Les Marseillais payent la taxe ordure.
Les Marseillais qui respectent pas.
Mais en fait, monsieur, le problème, non, c'est que vous parlez. En fait, vous me contredisez juste parce que vous m'aimez pas. C'est votre droit. Il y a aucun problème. Je vous encourage à continuer à pas m'aimer. Mais vous avez une prise d'opposition qui n'est pas impartiale. Et en fait, vous êtes contre moi parce que vous me détestez et pas pour le bien des habitants de la France qui n'ont pas accès à des sites et qui peuvent plus profiter de la nature.
Vous plaisantez. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais me dire, monsieur Marshall, ça fait 12 ans que je vais en Corse.
Oui.
Vous savez, en Corse, depuis 2 ans, ils ont préservé l'île. C'est-à-dire que vous allez dans des criques, dans ceci, de cela, vous avez des parkings qui sont protégés, qui sont situés et tout, qui sont payants. Vous laissez votre voiture, vous payez 2 euros, ok? Votre voiture est surveillée.
C'est pas discriminant.
Le respect de la nature. Ouais. Voilà.
Mais monsieur, à Marseille, les parkings sont payants et ils sont à 5 euros minimum, ils sont pas à 2 euros.
On parle pas des parkings.
On parle pas des parkings, on parle de l'accès.
Ça peut être une solution pour restreindre.
Jean-Claude, bonjour.
C'est déjà payant.
Allô?
Oui, il est là, Jean-Claude. Vas-y, t'écoute.
Oui, Jean-Claude, bonjour.
Donc, en Corse, si vous laissez des détritus, un sac qui n'est pas mis dans une poubelle et tout, vous avez une amende de 500 euros sur place.
D'accord. L'amende de 500 euros en Corse, je sais pas, je pense que les amendes sont partout les mêmes, je suis pas au courant des amendes en Corse. Mais le sujet n'est pas les parkings. Quoi qu'il arrive, vous savez très bien qu'en France, peu importe où on va en France, les parkings sont payants et ça fait rentrer de l'argent dans les communes.
On peut mettre des parkings qui n'y avait pas, qui étaient publics. On peut mettre des parkings payants et même très chers pour accéder à ces sites touristiques.
C'est naturel. Sur le très cher, ils sont pas d'accord.
Voilà, ce sera un filtre dissuasif.
Oui, mais c'est un filtre dissuasif pour les personnes qui n'ont pas d'argent.
Tiens, derrière Alain, il y a le pont du Gard. Ouais. Tu rentres pas au pont du Gard comme ça, c'est payant.
Je suis désolée, ça reste un filtre pour les gens qui n'ont pas d'argent, encore une fois,
et qui vont être laissés Magali,
on dit Magali, t'es en boucle.
Mais Magali, il y a peut-être d'autres solutions pour faire en sorte que certains sites arrêtent d'être surexploités.
Magali, bonjour. Alors, Magali, vous êtes plutôt dans l'équipe oui ou dans l'équipe non, alors?
Un petit peu les deux, mais plutôt l'équipe oui. Malheureusement, de par mon vécu et de par justement comment évoluent les sites et de voir comment c'était avant et comment ça devient. Malheureusement, je pense qu'on va être obligé de mettre en place des choses. Si je prends mon témoignage, mon exemple, un exemple que je connais très bien d'un endroit qui est côté en Espagne, lac de Gobe, qui est simplement sublime. J'y suis allée quand j'étais très petite. Mon père habitait là-bas, donc c'est un endroit que je connais très bien. Et en plus, quand j'ai eu une vingtaine d'années, je me suis mise à la randonnée, à la montagne. Donc j'ai fait le Vignemale. Bon, c'est un endroit que je connais aussi très très bien, que j'ai escaladé, etc. Et puis justement, c'est rigolo parce que la semaine dernière, j'y suis allée, mais là, en tant que touriste, j'avais simplement envie d'y retourner. Voilà. Et quand j'ai vu le lac de Gobe, le monde qu'il y a, c'est devenu Disneyland. Enfin, c'est
faut limiter l'accès alors.
Je pense qu'il faut limiter l'accès. Alors, c'est vrai que tous les grands sites dont vous parlez, Pont du Gard, etc., ça fait très longtemps qu'ils ont des parkings payants. Hein. Moi, quand le Pont d'Espagne est passé payant, quand j'avais 25-30 ans, ça m'avait complètement dépité. J'avais trouvé ça scandaleux. Mais à l'heure d'aujourd'hui...
Ça l'a sauvé le...
Ben, je pense que déjà, ça permet de sécuriser le site parce que la population en montagne, elle a beaucoup changé, comme vous le savez. Maintenant, c'est des gens qui la consomment. C'est des gens, voilà, avec les réseaux sociaux. On va dire, telle randonnée, on va la faire. On n'a plus besoin de regarder les cartes et d'être montagnard. Alors qu'avant, c'était les montagnards qui allaient en montagne. Donc déjà, il faut sécuriser. Et puis ben, là, par exemple, au lac de Gob, ils sont en train de construire des toilettes sèches. Ben, ça a un coût quand même, hein, ça.
Ouais.
Ça a un coût. Il y a énormément de monde. Alors, c'est triste parce que c'est un espace de liberté qu'on perd. Moi, je suis la première. D'ailleurs, la semaine dernière, j'y ai pensé, c'est rigolo. J'ai dit, mais quand même, c'est vrai qu'il y a du monde, le parking est payant et tout, mais quand même, si tu veux aller faire une randonnée, demain, tu prends ton sac à dos. Si tu veux partir 4 jours dans le parc national des Pyrénées, bah, tu peux le faire. Hein.
Ouais.
Quand on va en Amérique du Nord, vous le savez, les parcs, eux, ils sont payants.
Tous, moi, je suis allée au Québec. L'accès est payant.
Je suis allée au Québec, vous arrivez, vous mettez vos raquettes, vous allez à la cabane, vous dites qui vous êtes et vous payez.
Et en plus, et là-bas, les tarifs sont assez élevés. Et si vous êtes pris en flagrant délit de sortir d'un sentier ou de prendre quelque chose qui n'est pas autorisé ou de laisser des déchets, c'est des amendes qui sont en plusieurs milliers de dollars. Magali, c'est vous qui aurez conclu la discussion. Attends, on va regarder. Simplement, si vous êtes sur la ligne de Magali et de Didier, est-ce qu'on doit rendre payant l'accès aux sites touristiques? C'est quand même un non. 56-44, c'est la team Kauter-Médi qui l'emporte.
L'accès aux monuments et à la culture, c'est une volonté politique. Moi, je suis allée à Londres à plusieurs reprises avec mon fils et les musées à Londres sont gratuits. C'est un système de dons, chacun met ce qu'il veut. Et l'accès à la culture à Londres, l'accès à des parcs qui sont formidables et gratuits aussi. Donc c'est peut-être payant aux États-Unis, mais c'est gratuit ailleurs.
Un mot quand même pour vous dire que le beluga est mort.
Eh ben voilà.
Il a dû être euthanasié lors de son transfert. Il n'a pas supporté le transfert. L'état de santé s'est dégradé. Donc voilà, ils ont dû l'euthanasier.
C'est ça. C'était prévisible.
C'est ce que tu disais, Didier.
Bah oui,
c'est que c'était une bête qui était fatiguée de toutes les manières, sûrement.
Bah oui, et puis il n'était pas là par hasard. Hein.
Ouais.
Un beluga, c'est pas fait pour vivre en eau douce. Donc s'il était là, c'est qu'il y avait un problème.
Dans un instant, Louis Boyard, le député NUPES du Val-de-Marne, pour discuter avec nous du droit de vote des étrangers, de la prochaine rentrée à l'Assemblée nationale et de ce que fera la NUPES. Allez, à tout de suite avec les Grandes Gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC Story. Nous sommes avec Mehdi Ghezard, chef d'entreprise, Kauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère. Didier Giraud nous accompagne, l'agriculteur en Saône-et-Loire. On accueille notre invité.
RMC, les Grandes Gueules.
Louis Boyard, député NUPES du Val-de-Marne, une ancienne de nos GG. Bonjour Louis.
Bonjour.
Louis, droit de vote des étrangers. Proposition de loi de Sacha Houlier, le président de la commission des lois. En fumage, réelle conviction, qu'est-ce qu'on en pense?
Le droit de vote des étrangers sur les élections locales, c'est une promesse historique de la gauche. C'est une proposition qu'on a dans notre programme. Donc, même si elle est proposée par La République En Marche, à titre personnel, je la voterai. Mais je pense que c'est aussi un moment de vérité pour La République En Marche et pour Macron. Parce qu'on nous avait promis une autre méthode de travail, le compromis, le consensus. Pour le moment, j'observe que les mains tendues, il les a uniquement tendues au Front National. Sur la suppression de la redevance télé, sur l'expulsion des étrangers qui ont commis des délits. Et alors, la gauche, on a refusé toutes nos propositions. Donc là, c'est peut-être le moment de vérité qui va permettre de montrer que Macron ne tend pas que des mains au Front National.
C'est-à-dire, mais est-ce que c'est sincère? Parce qu'on voit déjà qu'il y a un désaccord entre Sacha Houlier et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Oui, ils sont pas d'accord.
Est-ce qu'il y a pas de la manœuvre politique?
Mais Gérald Darmanin n'est pas député de La République En Marche. Gérald Darmanin ne vote pas les lois. C'est les députés de La République En Marche qui votent les lois. Donc ils ont à avoir ce débat. Moi, en tout cas, je suivrai. Je crois qu'on est beaucoup à la France Insoumise et probablement à la NUPES qui seraient aussi prêts à voter cette loi. Et puis après, ils ont qu'à avoir leur débat en interne. Mais encore une fois, je dis que cette proposition de loi, c'est quelque chose.
L'ensemble de la NUPES.
C'est une promesse historique de la gauche. L'ensemble de la NUPES, je sais pas encore parce que c'est encore très récent. Il y a des discussions qui vont avoir lieu. Mais c'est aussi peut-être un moment crash test pour La République En Marche, qui pour le moment, je le répète, n'a que fait des malentendus au Front National.
Ça va s'inscrire dans le cadre du grand débat sur l'immigration promu par Gérald Darmanin. Est-ce qu'on va pas faire du en même temps? C'est-à-dire qu'on va durcir d'un côté la loi pour les étrangers, avec les délais d'expulsion des OQTF qui vont être raccourcis, et puis de l'autre, on va montrer que on plaide aussi en faveur de l'intégration,
le truc, c'est que
en permettant de
vous
voter.
Vous l'avez déjà dit, en fait. Gérald Darmanin, c'est lui qui a l'initiative de ce grand débat sur l'immigration. Gérald Darmanin et Sacha Houlier ne sont pas d'accord. Donc je me demande même si jamais le gouvernement va respecter sa majorité et si jamais ils vont mettre ça, ils vont en faire un projet de loi. Je le souhaite. Moi, je souhaite que le gouvernement écoute ses députés de La République En Marche, qui pour le moment ne servent qu'à voter ce que choisit de faire le gouvernement, que les députés de La République En Marche comprennent qu'ils ont aussi une responsabilité historique et qu'ils doivent arrêter de tendre la main au Front National et peut-être s'intéresser aux propositions de la gauche. Et puis voilà, après ils auront leur débat en interne et ils assumeront leur choix.
Mais vous la voterez à titre personnel?
Moi, à titre personnel, j'ai aucun problème à voter cette loi, promesse historique de la gauche et proposition de notre programme.
Et c'est bien qu'il y ait un grand débat sur l'immigration à la rentrée.
Non mais attendez, vous avez pas à quel moment est-ce qu'on n'a pas assez parlé d'immigration? Ça fait 5 ans qu'on fait que parler de l'immigration, on fait que ça parler d'immigration.
Non, ça fait
vous savez pourquoi
ans.
Est-ce qu'on va avoir un grand débat
ça
sur
fait
l'immigration?
30 ans, ça fait 30
parce qu'on
ans.
Va avoir un débat sur l'assurance chômage, probablement un débat sur les retraites, et qu'à chaque fois qu'on doit avoir des lois qui vont écraser les pauvres, on agite la haine et les peurs autour de débats sur l'immigration. Enfin, attendez quoi, on a eu Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus?
Bah, il y a eu Marine Le Pen au deuxième tour
d'élection
présidentielle et 89 députés du Rassemblement.
Justement,
non,
c'est ça qui est
un sujet prégnant pour les Français.
Mais on passe notre temps à en parler. On n'arrête pas de voter des lois sur l'immigration. On fait que ça, ça résout pas les problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on prend le problème par le mauvais bout. Et parce que, d'ailleurs, je pense que sur l'immigration, on est complètement à côté de la plaque. Il faudrait peut-être aussi réfléchir à comment est-ce que ça se sent une personne étrangère qui est devant sa télé et qui, à longueur de journée, se fait amalgamer, discriminer, stigmatiser par Darmanin et les députés du Rassemblement National. Non, mais il faut aussi peut-être se demander comment est-ce que ces gens, ils se sentent dans ce débat-là. Comment est-ce que ça se fait que dans les débats sur l'immigration, on n'ait jamais un seul sans-papier qui soit venu sur un plateau télé pour expliquer c'est quoi la réalité. Et vous savez quoi, je vais même vous faire une proposition. Là, vous tous qui êtes autour de ce plateau, j'aimerais vous inviter dans un CRA, dans un centre de rétention administratif.
Et là, déjà.
Allez visiter ce CRA-là. Je pense que beaucoup... Vous avez déjà été visiter un CRA?
Oui.
C'est la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Non, mais je pense que beaucoup de Français
découvrent la
voir...
vie, mais on est beaucoup sur cette table à pas la découvrir.
Les gens, arrêtez de dire qu'on découvre la vie. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un CRA. Mais attendez, je vous permets pas. Ça fait des années que je me base sur ces sujets-là. Le problème des centres de rétention administratifs, c'est en gros l'endroit où on met les personnes qui sont en situation irrégulière avant de les expulser. C'est un lieu fermé. On ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est qu'un centre de rétention administratif et on va pas leur en vouloir. Et je pense que c'est aussi nous notre responsabilité de montrer que le débat sur l'immigration, c'est avant tout un débat de souffrance pour beaucoup de personnes.
C'est une obsession Gérald Darmanin en ce moment.
Mais c'est pas une obsession, c'est un agenda politique. Gérald Darmanin passe son temps à marcher sur les plates-bandes du Rassemblement National,
y compris sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen.
Mais bien sûr, là encore une fois,
il dit qu'il n'a rien à faire sur le sol français, l'imam.
Gérald Darmanin, c'est quelqu'un qui c'est un politicien, c'est pas un ministre. Il passe son temps à faire du coup politique pour essayer d'exister. Voilà.
L'imam Iqiyoussen, il a sa place sur le sol français.
Mais regardez, excusez-moi Alain, ce qui n'est pas votre cas, vous à la France Insoumise.
Moi, pas du tout, ou vous
monsieur le député, ce n'est pas votre cas. De faire que des coups politiques, c'est pas du tout votre marque de fabrique.
Je vous laisse.
Premier jour à l'Assemblée nationale, vous serrez pas la main d'un député dans l'hémicycle, c'est pas un coup politique.
Parce qu'il y a 89 députés du Rassemblement national qui rentrent à l'Assemblée et tout le monde fait comme si c'était normal. Pardon, je trouve pas que ce soit une
petite question. Vous êtes un politique, monsieur, Darmanin fait de la politique, vous en faites tout autant.
Voilà.
Donc voilà, maintenant, ne rejetez pas l'opprobre sur les gens alors que vous faites exactement la même chose.
Maintenant,
je vous pose une question. Pourquoi ce serait pas normal qu'il y ait 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée?
Ils ont été
élus, ces mecs, ces nanas.
Mais à partir de... Je conteste pas le fait qu'ils soient élus, je conteste pas le fait qu'ils siègent. Je constate juste que c'est un échec politique,
oui,
de la part de tous,
oui,
d'avoir 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée.
Oui. Et je à constate commencer que par votre tête et de parti qui exerce depuis un âge où mon père et ma mère ne se connaissaient pas, et j'ai 45 ans, et qui est aussi lui co-responsable de ce qui se passe dans le pays. Il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur des gens comme si
c'est
eux.
Pardon, mais Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai jamais vu marcher sur les plates-bandes du Rassemblement National. Macron et Darmanin, ils font ça à longueur de journée.
Je l'ai vu très immobilier à Marseille
ailleurs. Il y a aussi autre chose. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité autant des médias que des politiques. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que pour le moment, on est les seuls à le dire. À partir de quel moment est-ce que c'est devenu normal d'avoir 89 députés RN à l'Assemblée nationale? Pour tout le monde, c'est absolument normal. C'est pas un événement politique.
C'est devenu normal depuis que les gens se sentent complètement abandonnés par des cols blancs qui sont à des années-lumière de leur problématique.
Exactement.
C'est devenu normal depuis... À Marseille, on a eu catastrophe sur catastrophe. Le député, c'était Mélenchon. On l'a pas vu un jour. Il instrumentalise la mort de Zineb Redan à souhait. Je suis la porte-parole de la famille de Zineb Redouane. Donc je connais le corps de Zineb Redouane est resté 3 semaines bloqué à la morgue. C'est pas Monsieur Mélenchon qui m'a aidé à le sortir pour le renvoyer à son fils Samy. C'est un député de la République en Marche, qui s'appelle Saïd Hamada. Même si je peux pas le voir, je suis obligée de reconnaître qu'il a travaillé. Excusez-moi, on a eu 8 morts dans les effondrements de 2 immeubles. Il a pas été là un jour, il a pas présenté les condoléances aux familles, il nous a pas aidé quand on s'est battu contre le ministre qui était à l'époque Monsieur de Normandie, etc., etc. Il a pas participé avec nous associatif et personne qui issu de la société civile aux réunions pour se battre, pour avoir une main comme ça tendue et une main forte qui s'est battue pour que les gens soient respectés, pour que les gens soient mis à l'abri. Donc moi, d'accord, je suis désolée, il y a 89 députés RN parce que des gens comme Mélenchon, et il n'est pas le seul, mais des gens comme Mélenchon ne font absolument rien à part parader dans les médias, de médias en médias, les médias qui critiquent alors, ici et ailleurs, ils font que ça, ils ne font rien d'autre.
Je trouve que c'est un raisonnement assez simpliste.
Eh ben, c'est le vôtre, très réel en tout
parce
cas.
Parce que vous parlez par exemple du cas de Zineb Redouane, oui, vous parlez d'un député de La République En Marche. Est-ce que le député de La République En Marche a reconnu que la police était responsable?
Non, c'est Est-ce qu'il a utilisé le terme de violence? C'est pas le même cas.
C'est un autre. Moi, je suis pas marseillais, je suis du Val-de-Marne, donc je maîtrise pas forcément les cas de Marseille. Mais vous avez aussi la question du logement. Sur la question du logement, est-ce que La République En Marche porte une bonne politique logement pour empêcher que des logements s'effondrent? Est-ce que La République En Marche mène une politique du logement social? Non. Nous, on
moi,
a
je des... vous demande, vous, en tant que député, votre tête de gondole, 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait à Marseille? Absolument rien. Bompard vient d'être élu. Le jour même, il a voté, il est parti, on l'a plus jamais revu sur le terrain. Donc non, je sais que c'est un mandat national, monsieur.
Bien sûr.
Mais il y a 89 députés racistes, pas racistes, mais en tout cas, voilà, issus d'un parti qui sont racistes. Issus d'un parti, parce que je pense qu'il y a des pauvres gens qui sont perdus aussi à l'intérieur. Il n'y a pas que des racistes. C'est facile de faire un amalgame. Il y a des racistes partout, monsieur. Moi, j'appelle Kaouter Ben Mohamed. Oui. Le racisme, je l'ai vécu de la part de gens de droite, de gauche, du FN et de partout. À chaque fois que je viens, on croit que je suis un mec, déjà. On va commencer par le commencement. S'il y a 89 députés, monsieur, c'est parce qu'il y a un immobilisme de la part de ceux qui sont à la tête de ce pays, et le FN n'a jamais été à la tête de ce pays. La droite et la gauche depuis 40 ans, qui fait que les Français aujourd'hui se sentent abandonnés sur des problématiques de base, se nourrir, se loger, se chauffer, l'éducation de leurs enfants. Et c'est pour ça qu'il y a 89 députés.
Je suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, d'autant que Jean-Luc Mélenchon s'est présenté, il a largement gagné l'élection. Bompard s'est présenté, il a ensuite gagné l'élection. Sur Marseille, j'ai vu par exemple le combat qu'ils ont mené avec les salariés de McDo sur Marseille. Je suis pas marseillais et pourtant je vois aussi vous avez un certain rapport à l'élection. J'ai vu que vous-même vous vous êtes présenté à une élection et vous avez votre position, vous la portez. Vous n'avez pas eu le suffrage et voilà.
Mais c'est chacun, normal.
Mais
j'ai été boycotté des médias. Si j'avais un débat, et je vous invite à faire un débat.
Allez, après on va sortir de Marseille. Même là. Allez, alors revenons sur Gérald Darmanin et sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen.
Voilà.
Est-ce qu'il a sa place sur le sol français? Gérald Darmanin dit il n'a pas sa place et il va être expulsé.
Justement, c'est justement l'erreur à ne pas faire. Quand je vous disais que Gérald Darmanin n'était pas un ministre, mais un politicien qui jouait des médias pour pouvoir avancer sur sa propre carrière, c'est exactement l'exemple. Je pense que il faut un moment poser la question des droits de l'homme et de la séparation des pouvoirs. Je ne pense pas que ce soit souhaitable dans notre pays qu'un ministre de l'Intérieur puisse, il y a un peu de procédure, mais à la fin c'est lui qui prend la décision, expulser tout seul une personne qui n'est jamais passée devant un juge et qui n'a jamais été condamnée. Et attendez, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Il a tenu des propos homophobes, il a tenu des propos sexistes, il a tenu des propos antisémites. Cette personne doit être mise devant un juge. Elle ne doit pas être mise devant Gérald Darmanin qui fait un coup politique pour derrière justifier quoi? Justifier que dans sa prochaine loi, on lui donne encore plus de pouvoir. Non mais c'est ça la question, c'est ça le débat de fond.
Il est d'accord avec lui, mais c'est la process qui ne te va pas.
Mais moi je pense que lui, il devrait aller devant un juge. Voilà, je pense qu'il
devrait devrait être traduit devant
si vous tenez des propos antisémites, sexistes et homophobes, c'est normal que vous soyez jugés. Aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est d'avoir un ministre de l'Intérieur qui essaie d'avoir encore plus de pouvoir et qui crée des faux débats médiatiques pour derrière justifier qu'on lui donne encore plus de pouvoir.
D'accord. Alors, aujourd'hui, mais là, Louis, t'es dans la guerre contre Darmanin et contre la majorité. Ok, mais sur le fond, tu nous as parlé que t'allais en centre de rétention. Combien il y en a, t'es député de la République maintenant? Combien il y a de gens en situation irrégulière qui sont reconduits à la frontière tous les ans? Combien il y en a? Combien il y a de gens qui sont illégalement sur le territoire français, qui sont condamnés et qui sont renvoyés chez eux? Combien il y en a? Parce que s'il y a 89 députés, c'est aussi parce que les gens, ils en ont marre de ça. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui est attrapé ou condamné pour un délit, il est jamais reconduit à la frontière, quoi.
C'est pas, alors ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que c'est jamais le cas.
Les minorités,
et d'ailleurs, attendez.
Personne arrêtée en centre de rétention à Paris, il y a eu 22 reconductions à la frontière.
Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie ces gens-là dans un pays qu'ils ont quitté parce que justement, ils n'arrivaient pas à y survivre. C'est très facile, nous qui sommes posés dans nos sièges de chroniqueurs ou de députés, de dire qu'on devrait expulser ces gens-là sans soucier de ce qui leur arriverait à l'avenir. D'autant que sur l'immigration, avec le réchauffement climatique, vous allez avoir 87 millions de personnes qui n'auront plus d'eau, qui n'auront plus rien à manger. Ces gens-là, on en fait quoi? on continue de maintenir la politique qu'on est en train de tenir. Non mais la question de l'immigration.
Mais on fait quoi? On va au bout quoi.
Mais ah bah je vais vous dire. Je vais vous dire.
On continue à garder la frontière pour les Anglais quoi. Moi j'ai un copain qui est paysan au ras de Sangatte quoi.
Ouais.
Mais leur vie elle est plus possible quoi.
Bien sûr.
Mais
sur l'immigration on n'arrête pas d'avoir des débats réactionnaires, des débats déconnectés de la réalité, à la fois des Français qui derrière doivent se retrouver avec des gens qui vivent dans des situations absolument déplaisantes, dans des camps, il faut appeler les choses comme ça. Et il y a des gens qui en souffrent et à la fois les personnes qui le vivent. Et ça va être un problème qu'on va avoir encore plus. 87 millions de personnes qui auront plus d'eau. On fait quoi de ces gens? Et aujourd'hui, le seul débat qu'on a, c'est de dire qu'on n'en reconduit pas assez. D'autant que, pardon, hein, mais on nous dit qu'on n'a pas les moyens. On a les moyens. De l'argent, il n'y en a jamais eu autant en France. Non, mais c'est vrai. Bernard Arnault. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Je suis triste qu'on en parle. On peut parler inflation un petit peu?
Bah, justement, c'était ma prochaine question. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout augmente cet été. On en a parlé tout à l'heure. Avec des témoignages de personnes qui, au 10 du mois, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il va y avoir une rentrée compliquée.
Exactement.
Au niveau de ce qu'il y aura à payer de toutes les manières.
Exactement.
Mais le gouvernement a prolongé l'échec énergie, l'échec inflation jusqu'à la fin de l'année. Il y a des dispositifs qui sont mis en place.
Je pense qu'il est nécessaire de faire un petit point d'information. Une loi pouvoir d'achat a été votée et elle ne compensera pas l'augmentation des prix. Il faut que les Français sachent qu'ils vont perdre en pouvoir d'achat avec la loi pouvoir d'achat. D'autant que cet argent-là, il sort d'où ? C'est de l'argent des Français. C'est de l'argent public. C'est de la taxe, c'est des impôts. On a pris dans la poche droite des Français pour la mettre dans la poche gauche. C'est pour ça que nous, ce qu'on demandait, c'était pas uniquement une loi sur le pouvoir d'achat. C'était une loi sur le partage des richesses. Parce qu'il y a des chiffres dont on parle assez peu. Mais là, aujourd'hui, les Français, on souffre à cause de la crise du Covid et à cause de la crise inflationniste. Vous avez des gens qui en profitent de cette crise. Bernard Arnault, il avait 60 milliards, une fortune de 60 milliards avant le Covid.
Il les a pas en
vous
poche,
savez, elle est combien?
Mais, il les a pas en
non,
poche,
mais c'est de la fortune.
Milliards.
Mais derrière, il en a quand même dans la poche.
C'est la capitalisation aussi de ce entreprise qui s'appelle LVMH, qui est un leader mondial.
Et la capitalisation,
60 milliards qu'il a dans la poche.
Mais derrière, il a quand même de l'argent dans la poche. Vous savez, il est passé de 60 milliards à 180 milliards. Bettencourt, elle est passée de 40 milliards à 80 milliards. Ce que je veux dire, c'est que ça fait deux ans
c'est
que
le
nous, les Français,
luxe qui se
on se
bien,
serre hein. la ceinture et que derrière, les grands milliardaires du luxe, ils triplent, voire ils doublent leurs profits. Enfin, j'ai un autre exemple à vous donner. Le prix de l'essence. Le capital.
Leur capital.
Oui, le capital. Mais derrière, il y a des profits.
C'est faux. C'est leur capital.
Non, le profit suit derrière. Le profit suit. Là, j'énonce le capital.
Ce que tu viens d'énoncer, mais sachez, c'est le capital.
Mais très bien, allons-y sur les profits. Le prix de l'essence, il a quasiment doublé, d'accord ? Les profits total, ils ont quasiment triplé.
Mais
ce que je veux dire, c'est comment est-ce que c'est possible ?
Total paye ses impôts sur ce qu'il fait en France. Et Total fait de l'extraction et de la production surtout à l'étranger, donc il paye des impôts à l'étranger.
Exactement.
Il fait du raffinage en France.
Et derrière, c'est les Français qui payent.
Mais non, les stations Total, pour la plupart, sont des franchisés qui eux-mêes paye des impôts sur l'essence et les taxes en France.
Donc en fait, finalement, les prix augmentent, mais en fait, finalement, il n'y a pas assez d'argent. Bernard Arnault, il a 180 milliards de capitalisation. Tout ça triple, mais il n'y a pas assez d'argent en France. Ces gens-là, on leur a pris. Non, mais c'est important de le dire.
Je suis en train de vous dire qu'il y a des milliers d'essences.
Mais dans tout ça, vous savez combien est-ce qu'on a pris à ces gens-là?
Juste une question. On est dans un pays communiste. Peut-être qu'en 2022, je suis pas au courant.
Mais
je vous pose une question, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. Monsieur le député.
Ouais.
Vous êtes député.
Je suis député.
Je vous pose une question.
Très bien.
Sommes-nous dans un pays communiste?
Nous sommes dans une république.
Est-ce que nous sommes? Répondez à ma question, s'il vous plaît, monsieur le député. Sommes-nous dans un pays communiste?
Écoutez.
Oui ou non?
Monsieur le chroniqueur.
Je suis chef d'entreprise. Je vous arrête tout de suite, monsieur le député. Moi, je suis pas chroniqueur. Je vais pas en faire une vocation. Si je vais pas rester des années.
Dans l'affaire.
Vous êtes même pas au courant. Ne parlez pas de choses que vous savez pas. Parce que vous savez pas ce qu'on fait de mon cachet ici. Je vous demande, sommes-nous dans un pays communiste? Non, on ne l'est pas. Donc pourquoi vous me parlez de la fortune de Bernard Arnault, de la fortune de Total, de la fortune de X ou de Y? Est-ce que vous croyez que maintenant, vous allez demander à des chefs... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous allez demander à des chefs d'entreprise de payer tout ce qu'il faut pour vous satisfaire à votre demande de d'économie que vous voulez vous mettre en place, qui n'est pas faisable. L'économie que vous demandez à l'LFI n'est pas faisable, n'est pas tenable. Économiquement, ce n'est pas logique.
Est-ce que vous êtes
en train d'apprendre le texte par cœur de Mélenchon. Vous apprenez le texte. On a reçu Mathilde Panois la semaine dernière. Vous êtes en train d'apprendre le texte par cœur, mais vous ne savez pas l'exprimer, vous ne savez pas l'expliquer, vous n'y croyez même pas. Mais quand vous parlez, ça se voit que vous n'y croyez pas à votre texte. Je vais vous expliquer pourquoi en deux mots.
Non, je vais vous dire, ça se voit.
Ce que vous dites, ce n'est pas plausible économiquement. Non, mais Bernard Arnault, il a 180 milliards. L'autre, il a 60 milliards. L'autre, il a 20 milliards.
Écoutez-moi, monsieur, vous êtes servile. Vous êtes un chef d'entreprise, je suis en train de vous parler de chef d'entreprise du CAC 40, vous les défendez.
Mais je ne défends pas ces chefs d'entreprise, je suis en train de défendre le système, je suis en train de défendre le système économique, le modèle français qu'on est. C'est tout, je m'en fous de Bernard Arnault, je m'en fous de Total. Je suis en train de vous dire que ce que vous dites, ce n'est pas faisable, applicable, tout simplement.
Allez, c'est fini, nous avons de la fin. Écoutez, il y a 300 économistes qui appuient le programme. Pardon, mais ces gens-là sont des docteurs, ce sont des personnes qui maîtrisent parfaitement le sujet. Vous pouvez pas faire comme si jamais elles n'existaient pas. Monsieur, vous n'êtes pas un chef d'entreprise du CAC 40.
Il y en a 20 000 qui disent le contraire de ce que vous dites, monsieur.
Les PME et les TPE dans ma circonscription, elles sont prises à la gorge. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement peu de moyens qu'ils vont uniquement dans la grande distribution. Et les petites et moyennes entreprises, elles s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que les Français perdent en pouvoir d'achat. Donc, monsieur, peut-être que secrètement vous êtes un chef d'entreprise du CAC 40, mais si vous voulez vraiment penser à l'intérêt des Français et des petites et moyennes entreprises, lisez le programme qui a été soutenu par 300 économistes.
Il y en a à peu près 40 000 économistes qui ont dit que c'était une ineptie.
Bonne journée.
Excellente journée.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.